Merci Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire des phares. C'est alors que des flots dorant les sombres cimes, la haute majesté d'un phare inébranlable, à la solidité des montagnes semblables, apparaît jusqu'à la fin des siècles sur la mer. Victor Hugo. D'histoire. Tous les marins connaissent leur nom. Ils s'appellent Armen, Créache, La Jument, Roche-Douvre, Bishop's Rock ou Cordouan. Et ils doivent leur nom à l'île sur laquelle se trouvait le premier d'entre eux, le phare d'Alexandrie, construit il y a 2300 ans sur l'île égyptienne de Pharos. L'histoire des phares est donc presque aussi vieille que celle des premiers navires. Et si elle finit un jour avec les progrès des moyens de navigation, si l'automatisation a déjà fait disparaître les gardiens de phares, on se souviendra que pendant des siècles, ils auront protégé les marins des naufrages lorsque, pendant les tempêtes, la terre devient aussi dangereuse que la mer. France Inter, le 18 décembre 1989.
Bonjour, il faudra encore être très prudent en ce début de semaine. Les météorologues annoncent des coups de vent. René Chaboun nous précisera tout cela à la fin de ce journal. Le phare de la Jument à Ouessant a été traversé par une lame qui a brisé les vitres à une quarantaine de mètres de hauteur. C'est bien simple, Théodore Malgor en est le gardien depuis 13 ans et il n'avait jamais vu cela. Il l'a dit à Philippe Périlloux.
Le phare ici n'a pas arrêté de trembler toute la nuit là, avec les paquets de mer qui n'arrêtaient pas. Hein. Il y en a eu trois carreaux de la cuisine là, qui sont cassés par les paquets de mer. Hein, qui, y a, voilà, ça montait jusqu'à la lanterne. Hein. Moi, j'ai jamais vu bouger le phare tant que ça. Hein. Pourtant, j'ai vu des tempêtes, mais pas si fort que ça. Mais il faut que le phare il bouge. Hein. Il faut qu'il bouge, sinon ça pourrait casser. Hein.
Jean Guichard, bonjour.
Bonjour.
Alors cette tempête de 1989, vous vous en souvenez, hein, ce jour-là, le gardien du phare de la Jument que l'on vient d'entendre vous l'a fait photographier à partir d'un hélicoptère. Il était à la porte de son phare, cerné par une vague absolument gigantesque. C'est une photo qui figure sur la couverture de votre dernier livre, Phare, qui a été publié aux sélections des Reader's Digest. La vague était tellement monstrueuse, je crois, Jean Guichard, que beaucoup de gens se sont demandé si le gardien du phare de la Jument n'avait pas été emporté par cette vague.
Oui, j'ai de nombreuses questions qu'a cette photo, puisqu'effectivement, quand on voit l'image et la vague qu'il a derrière, on peut imaginer qu'il était emporté par cette vague. Et ça a posé d'ailleurs certains problèmes, puisque cette image a été éditée en affiche d'art, si vous voulez.
Et je crois qu'elle a fait le tour du monde.
Elle a fait le tour du monde, elle est extrêmement connue partout dans le monde. Et il y a beaucoup de gens qui, a posteriori, m'ont dit, mais je suis content de savoir que le gardien est vivant, puisque mes amis me reprochaient d'avoir exposé dans le salon une photo d'un gardien qui était mort. Donc, quand elle a été publiée par Life Magazine, on a été obligé de faire un courrier circulaire auprès de tous les lecteurs de Life qui se posaient la même question.
En tout cas, elle montre toutes les difficultés de ce métier de gardien de phare en mer. Alors, les phares en mer et les phares à terre, c'est pas la même chose. D'ailleurs, les phares en mer sont tellement dangereux, je crois que les marins les appellent des enfers.
Des enfers, oui, par opposition au paradis qui sont les phares à terre.
Bon, on a entendu dans l'archive d'ailleurs à quel point c'est dangereux, puisque le gardien du phare disait qu'il y avait une vague qui avait atteint la lanterne, c'est-à-dire le sommet du phare de la Jument, qui est quand même est à 47 mètres de haut. Alors ce phare est inhabité, comme la plupart des phares français, même presque tous aujourd'hui. Ce phare de la Jument est inhabité depuis 91. C'est un tournant un peu dans l'histoire de ces phares, qui est très ancienne. Et on se doute bien que dès l'Antiquité, on avait besoin de baliser comme ça les côtes, Jean Guichard.
Oui, les premiers, depuis l'Antiquité, les Grecs ont essayé de baliser par des feux assez sommaires le bassin méditerranéen. Et ensuite, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, les Égyptiens avec le phare d'Alexandrie sur l'îlot de Pharos, qui est devenu le terme générique qui a désigné les phares en France, tiens à préciser, parce que pour les Allemands et les Anglais, on parle de Leuchtturm ou de Lighthouse, on parle de maison de feu, on parle pas de phare en référence à l'île de Pharos. Seuls les Français s'en réfèrent à l'îlot de Pharos et à l'Antiquité. Mais si vous voulez, depuis les Grecs jusqu'aux Romains, on a assisté à un développement du balisage maritime avec l'utilisation de foyers, de tours ou de feux plus sommaires. Et jusqu'au cinquième siècle à peu près, si vous voulez, tant que l'Empire romain est resté un peu vaillant, il y a eu un effort de fait. Je pense que si vous voulez, le paysage maritime est très lié à un développement d'une société élaborée et sophistiquée comme l'était l'Empire romain ou l'Empire grec et les Égyptiens.
Ce qui est étonnant, j'ai appris ça, je sais plus où. Avec le phare d'Alexandrie, c'est l'exploit que ça représente, parce qu'on est quand même il y a 2300 ans. Ce phare, je crois, avait une hauteur de 120 mètres. Quand on sait que le plus haut phare de France, qui est le phare de l'île Vierge, je crois qu'on voit dans votre livre, Jean Guichard mesure 82 mètres, c'est-à-dire 40 mètres de moins. On s'imagine l'exploit de qu'a été ce phare d'Alexandrie, qui a duré en plus, je crois, environ 14 siècles. Hein, je crois qu'il a, il a 16 siècles. Il a disparu au 14e siècle. Alors, il y avait aussi le long des côtes, je l'ai appris aussi en vous lisant, il y avait des moines qui allumaient des feux. C'est le cas, par exemple, à côté du phare de la Pointe Saint-Mathieu, il y a une abbaye bénédictine où on allumait des feux.
Oui, les moines, je pense, par leur capacité à la solitude et à la vie rude pour laquelle ils avaient opté, devaient être une population particulièrement destinée au gardiennage de ces feux sommaires, ou des feux plus élaborés, puisque en fait, sur l'emplacement de Cordouan, sur l'île qui est au milieu de la Gironde, sur lequel se dresse le phare de Cordouan actuellement, on parle déjà du temps du prince noir, c'est-à-dire du prince de Galles, du temps de l'occupation anglaise de l'Aquitaine, d'une tour qui était gardée par des moines. Mmh. Et en Irlande aussi, j'ai de nombreux exemples comme ça, où ce sont des moines qui gardaient les phares, quelquefois dans des endroits absolument incroyables, parce que sur les Skellig, dans l'ouest d'Irlande, dans le comté de Cork, vous avez, c'est une île absolument inaccessible, et vous avez là aussi un monastère qui probablement balisait déjà la côte et l'île à cet endroit.
Vous évoquez, Jean Guichard, ce phare extraordinaire qui est le phare de Cordouan, qui lui fait partie des rares phares qui ont été construits avant le 19e siècle. Il y en a très peu. Cordouan, c'est vraiment une splendeur. Il est à l'entrée de la Gironde. Je crois qu'il a été construit, il a commencé à être construit à partir de Henri III. Et on l'appelait d'ailleurs le Versailles. On l'a appelé plus tard le Versailles des mers. Et c'est vrai que c'est splendide, c'est une œuvre d'art.
C'est une œuvre d'art, oui. Alors c'est un cas tout à fait atypique et particulier, Cordouan. Comme vous l'évoquiez, c'est Henri de Foix qui en a assuré la construction comme architecte du temps de Montaigne. Donc c'est comme en face de Montaigne, Montaigne était maire de Bordeaux. Donc ça nous amène. Il a été la construction a commencé en 1584 au XVIe siècle et il y avait très peu d'établissements maritimes à cette époque de type phare. Et en plus, il a été les plans ont été d'une ambition folle puisque comme vous évoquiez Versailles des phares, on a parlé aussi de phare des rois. Roi des phares, ce qui comprenait une chapelle, un appartement royal, des boiseries, et il était dans un style totalement florentin Renaissance, donc très très loin de la fonctionnalité de base d'un phare.
Il se visite d'ailleurs, je crois, comme on visite un château aujourd'hui. Enfin, c'est une merveille. Il y a un très beau phare aussi, mais celui est postérieur, avec un parquet en marqueterie. C'est le phare de Quéréon, je crois, près de l'île d'Ouessant.
Le phare de Quéréon, une très très belle boiserie, dans la salle de garde sous la lanterne. En chêne de Hongrie, avec une rose des vents en marqueterie sur le sol. Tous les panneaux des muraux sont en chêne de Hongrie. Et la cage d'escalier est en opaline d'Italie. Et c'est le cas de nombreux phares, comme l'île Vierge, qui est en opaline aussi, la jument aussi. Et c'est une particularité française d'avoir des phares aussi décorés. Et c'est dû au fait que, dans pas mal de cas, il y a eu des donations financières importantes qui ont permis ces décorations. Là encore, bien au-delà de la nécessité d'allumer un feu en mer.
Alors ces phares que vous venez de citer, après celui de Cordouan, ces phares ont été construits dans ce qu'on appelait l'âge d'or des phares, c'est-à-dire le 19e siècle, quand un nouveau procédé optique, la lentille de Fresnel, allait permettre aux phares d'avoir une portée considérable, comme celle du phare de la jument, où a été tourné ce film dont on va entendre un extrait, L'équipier de Philippe Lioret avec Philippe Torreton, dans le rôle d'un gardien de phare en pleine tempête.
Moi aussi, je vais vous faire comme. Je vais demander un phare à terre, un paradis. Ici, on appelle ça un enfer. Tu savais ça? S'il n'y avait pas eu ma baie, il y a longtemps que je ne serais plus là. Je serais même jamais venu dans ce pays de con. Je suis une vanne.
C'est un oiseau, c'est rien. C'est du verre armé, c'est incassable. Non, ça doit être un fou. Un fou de Bassan. Je suis attiré par les phares, j'ai le dessus. Il n'y a qu'un fou pour faire ça.
Yvon, c'est éteint, qu'est-ce qui se passe? Ils vont répondre, le phare s'est éteint.
Quand les cornes de brume beuglent, quand les chalutiers sont aveugles, camarades, le phare, à la barre, l'homme de car chancelant s'épuise, et nos cœurs écoutent l'hélice, camarades, le phare, camarades, le phare. Si l'océan au retour, je pourrais donc, Marie, sur les genêts de la lande. Camarade, le phare, le dentègue.
Michel Jonas, le phare. Jean Guichard, quand on voit les photos impressionnantes de votre livre, et notamment des phares construits en mer, des enfers, hein, comme on les appelait, on imagine la difficulté qu'il y a eu à les construire, et le temps qu'il a fallu, d'ailleurs, je suppose, pour les construire.
Oui, c'est tout à fait impressionnant. Je citerai comme exemple le plus symptomatique le cas de la construction d'Armen.
Au large de l'île de Saint.
Au large de l'île de Saint, de la pointe du Raz, en fait, c'est la chaussée de Saint. Il a été construit d'abord sur un caillou de 15 mètres sur 7 mètres. Armen, c'est la roche en breton, et donc ça fait une surface de 105 mètres carrés quand même, pour faire un phare, c'est assez peu. Il y a eu 5 années de tentatives pour ne serait-ce qu'accoster sur le rocher. Le rocher n'apparaît qu'à marée basse, à marée haute, il est submergé. Pendant 5 ans, ils n'ont même pas réussi à accoster sur la roche en question. Et une fois qu'ils ont réussi à accoster, il fallait savoir qu'ils travaillaient avec des brassières, qu'une barque les jetait sur le rocher, qui se jetait pratiquement avec une masse et un bout de fer pour essayer de créer des emmanchements de métalliques dans la roche, pour ensuite y ajouter les pierres. Et ils étaient jetés à l'eau par les paquets de mer. C'était complètement invraisemblable. Et ça a duré 14 ans de construction et 20 ans d'entretien pour le consolider derrière. C'est que, si vous voulez, au bout de 14 ans, on a dit d'accord, on l'allumait, mais enfin, il était destiné, comme Eddie Stone, peut-être à disparaître à la première tempête. Et il a fallu 20 ans encore derrière pour le consolider.
Vous citez ce phare d'Eddie Stone, je crois qu'effectivement, il a été enlevé avec ses gardiens. Il n'est plus, on a pu trouver sur le rocher où il se trouvait, on a pu trouver, je crois que, simplement une pièce métallique.
On dit qu'on a trouvé un anneau.
Non, mais ça montre quand même, on le voit encore une fois sur ces photos, ils sont soumis à une telle pression. Alors, ces phares, au début, avec quoi ils fonctionnaient? Je parle des phares avant le 19e siècle. Quel était le combustible qu'on employait? Je crois que c'était tout simplement du bois.
Alors oui, du bois, mais enfin il y a eu des choses un peu plus élaborées, si je puis dire, enfin très variantes en tous les cas, parce qu'il manquait pas d'imagination. Il y a eu de l'huile de baleine, de l'huile de colza, du bois et du charbon, comme vous venez de le dire, et du pétrole plus tard.
Et alors surtout, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a développé leur construction, il fallait qu'ils aient une portée suffisamment grande. Au 19e siècle, c'est grâce à l'invention d'un procédé optique qui permettait d'en augmenter considérablement la portée, Jean Guichard.
Oui, c'est la fameuse invention d'Augustin de Fresnel, qui est d'une part l'optique et d'autre part l'appareillage lui-même, si vous voulez. Parce qu'en fait, l'optique dite de Fresnel existait auparavant. Je veux dire, la technologie de la lentille existait. Par contre, de la mettre dans des dimensions pareilles, de l'adapter au phare, d'une part, parce qu'en fait, elle servait essentiellement à concentrer des rayons dans des utilisations scientifiques, et lui, il a fait l'inverse, c'est-à-dire que d'une source concentrée, il a fait une diffusion pour éclairer la mer avec. Et ce qu'il a inventé surtout, c'est l'appareil d'horlogerie qui va autour, qui permet la rotation, et donc l'occultation, qui permet la navigation maritime, parce que ça fait des éclats, ce qu'on appelle des éclats. S'il n'y avait pas cette rotation de l'optique, il n'y aurait pas d'occultation, et donc pas de moyen de signaler que d'identifier un phare de manière précise.
Oui, c'est parce qu'ils ont effectivement des éclats différents, des couleurs différentes qui permettent
de les repérer. L'immatriculation d'un phare.
Surtout avec les phares dont on parle, parce qu'ils sont tous très près les uns des autres. Là, il n'y a pas que ces phares au monde et même en France. Mais évidemment, vous insistez plus sur ces phares de la pointe de la Bretagne qui étaient extrêmement nombreux et vraiment très, très utiles, je suppose.
Bah, c'est la mer d'Iroise est sans doute le paradis des phares. C'est, ouais. C'est un paradis tout court.
En le paradis des enfers, pour ce qui concerne
le paradis des enfers, ouais. Absolument. Oui, c'est vrai que c'est le paradis des enfers. C'est un endroit extrêmement escarpé. C'est un endroit extrêmement dangereux dans les renverses de marée, même par temps calme. Parce que, si vous voulez, on parle de la pointe du Raz. La pointe du Raz, c'est la renverse de marée de la Manche dans l'Atlantique, dans les deux sens. Et c'est extrêmement dangereux dans tous les cas de figure. Alors, en plus, avec des tempêtes, dans le passage du Fromveur à côté de Ouessant, sur Quéréon et la Jument, là où est faite cette photo, dès que vous avez une tempête, ça devient absolument énorme comme condition.
Quoi. D'où l'importance de la portée, justement. Je crois que c'est le phare de Créache qui a la plus grande portée, qui est à Ouessant, d'ailleurs, justement. Mais lui est à terre.
Créache est sur l'île d'Ouessant lui-même. Il est quand même très exposé parce qu'il est au bord d'une côte particulièrement sauvage et très belle. Il a une portée extrêmement longue. Comme l'île Vierge dans le nord de la Bretagne, et un phare extrêmement haut. Donc en plus, on n'a pas de relief en France, si vous voulez, dans ces régions-là. Donc on est obligé de faire des phares hauts. Si vous allez en Écosse, par exemple, dans le nord d'Écosse, sur les Shetland, etc., vous avez des phares qui, point de vue construction, ne sont pas très hauts, parce qu'ils sont eux-mêmes sur des falaises qui font 100 mètres de haut. Donc,
justement, vous attachez de l'importance. Il n'y a pas que les phares français dans votre livre, Jean Guichard. Il y a aussi beaucoup de phares étrangers. Et assez curieusement, en tout cas pour le nord de l'Amérique, le Canada, ou les États-Unis, on voit bien qu'on attache, on a attaché, en les construisant, souvent au 19e siècle pour la plupart d'entre eux, beaucoup moins d'importance à l'architecture.
Oui, il y avait une volonté de rationalisation et d'économie que nous n'avons pas eu en France, en ce sens que, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, certains de nos phares se sont faits avec des donations, ce qui manifestement n'a pas été le cas pour les phares anglo-saxons, qui ont un esprit beaucoup plus pragmatique et qui ont été à l'essentiel en termes de sécurité maritime et de balisage des côtes, mais qui se sont moins attachés à l'exploit architectural, comme on vient de l'évoquer, tel Cordouan, Quéréon ou la Jument ou la Vieille sur la pointe du Raz.
Cela dit, ils sont dans des sites magnifiques aussi, on les voit dans votre livre. Alors, il y en a, comme en France, comme partout dans le monde, il y a des phares à terre, il y a des phares en mer, et même parfois d'ailleurs très loin des côtes, comme le phare de Roche-Douvre, qui est à peu près, je crois, une trentaine de kilomètres au nord-ouest de l'île de Bréa, et que visitait Yann Parentehaine pour France Culture en 1996.
Il y a une échelle, on monte, on arrive au premier étage, bon là c'est des voûtes, c'est des barres, quoi. Après on monte un étage, on arrive à l'étage machine, salle radio. Ensuite, on a un étage avec des batteries et l'atelier. Après, l'étage cuisine, salle à manger, une salle de bain, une grande chambre avec deux lits. Et après, il y a la tour. Il y a 329 marches. Du pied du phare pour arriver jusqu'à la lanterne. Donc, il y en a un qui monte pour l'allumage et l'autre pour l'extinction. Au moins une fois par jour.
En gros, entre 6-7 mois de l'année là-bas, on y passe la moitié de sa vie. À la limite, je me demande où est ma résidence principale. Est-ce que c'est ici, chez moi? Est-ce que c'est le phare? C'est presque le phare, ma résidence principale.
C'est entre deux eaux en traversant la glisse, voix de nos marins ont bien perdu la vie. Entre le pilier des noirs moutiers, entre piliers des noirs moutiers, par les coups de vent et par les coups de mer, les toits m'ont tombé, grand Dieu, quelle misère. Qui a proposé là la chanson? Qui a proposé là la chanson? C'est le garde-phare en voyant le courage que tous ces marins appelaient le naufrage.
Entre le pilier et Noirmoutier, un chant relatant le naufrage d'un trois-mâts norvégien en 1878, un chant écrit, je crois, par un gardien de phare comme celui que l'on a entendu tout à l'heure à Roche-Douvre et que vous connaissez, je crois, Jean Guichard.
Oui, j'ai compris.
Parce que vous ne contentez pas de photographier les phares de l'extérieur, vous vous intéressez aussi à ce qui se passe dedans.
C'est même l'essentiel de travail que j'ai fait sur les phares, si vous voulez, historiquement, pour revenir deux minutes là-dessus. J'ai commencé mon travail sur les phares par les gardiens de phares, sachant qu'ils étaient destinés à être, que les phares étaient destinés à être automatisés. C'est comme ça, en fait, que j'ai commencé mon travail sur les phares, et après je me suis intéressé à l'architecture et aux paysages qui les entourent. Pour revenir au gardien qu'on vient d'entendre, il s'agit de François Joas Boutrel, que j'ai reconnu, je ne savais pas que c'était lui que vous aviez interviewé.
Et il a c'est Yann Parentehaine, hein, c'était en 96.
Oui, ouais. C'est une archive, mais François Joas Boutrel a ce site particulier, c'est qu'il est, c'est un peintre formidable, et c'est en particulier un peintre d'icônes. Il aurait pu enseigner la peinture pour icône. Il accepte cet aspect de cet art qu'il a développé en tant que gardien sur le phare des Sept Îles et des Roches Douves à l'époque. Et il a fait aussi une chose en travail de peinture extraordinaire, c'est qu'il a peint son phare des Roches Douves à la manière de tous les grands maîtres. Et on a fait un livre là-dessus parce que c'est tout à fait étonnant.
Parce que justement, on se demande ce que peuvent faire ces gardiens de phare en restant aussi longtemps. Combien de temps restait-on puisqu'il n'y a plus de gardiens de phare, il n'y en a plus que dans un phare.
Les périodes de veille à bord des phares ont été très variables selon les époques et selon les lieux. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de réglementation au niveau de la direction des phares et balises sur le temps obligatoire. Simplement, il y a une adaptation, si vous voulez, aux conditions de vie, de la nature du phare, l'éloignement des côtes, et puis aussi les tempêtes. Il y a quand même un gardien d'Armène qui est resté, je crois, 101 jours de suite. Ça doit être le record, c'est ça. Ouais. 101 jours de suite sur le phare sans pouvoir être relevé. Parce qu'un phare en mer, comme on évoquait les enfers, si la tempête est trop forte, le bateau de relève ne peut pas passer. Sinon, pour les temps, si vous voulez, ça va être de 15 jours à 50 jours, à peu près 50 jours pour Planier en Méditerranée, qui est un phare assez paisible et qu'une petite île, c'est tout sauf un enfer. Et les phares bretons de Diroise, qui sont des enfers pour la plupart, une quinzaine de jours, c'est déjà bien, je pense. Mmh. Quand les conditions météo permettaient de les relever, évidemment.
On est deux, en général, dans un phare.
Tout à fait, oui. On a toujours l'habitude de dire le gardien de phare. En fait, ils sont toujours deux, puisqu'il faut assurer une veille, garder la flamme, il faut qu'il y en ait un qui se repose pendant que l'autre s'occupe de veiller le feu, etc.
Mais il y a des quarts, comme dans les bateaux en mer, dans un phare.
Oui, si vous voulez, dans le cahier des charges du gardien de phare, il y avait d'assurer la sécurité maritime et donc la sécurité de la flamme du feu. Et donc, il est hors de question qu'elle s'éteigne pour diverses raisons.
Ça n'arrive jamais, presque. Mais comment dirais-je, avec des moments extrêmement difficiles. Par exemple, vous évoquez la relève, encore une fois, dans ces phares en mer, d'où il est très difficile d'approcher. Je crois que c'est un des moments les plus dangereux, d'ailleurs, de la vie d'un gardien de phare, c'est quand il le quitte ou quand il y arrive.
La relève est très impressionnante. J'en ai effectué moi-même, évidemment, dans le cadre du reportage pour monter sur Quiréon. Vous êtes à Califourchon sur un ballon assez sommaire. On n'a même pas de harnais. Et la difficulté, c'est de passer un bout entre le phare et le bateau. Et le bateau, même par temps calme, puisque les relèves se font obligatoirement par temps calme, est secoué dans les courants et la perturbation liée au phare lui-même. Et c'est extrêmement périlleux.
Ouais. Alors, on parle d'un métier qui, en fait, est au passé, hein, puisqu'il a aujourd'hui disparu. Depuis qu'a commencé, on a commencé à automatiser les phares. France Inter, Alain Bédoué, le 9 septembre 1980.
À la page régionale, le métier de gardien de phare qui disparaît petit à petit, la machine remplace l'homme. Deux nouveaux phares bretons vont être automatisés l'année prochaine. Les explications de Philippe Laroche, ingénieur responsable des phares et balises dans les Côtes du Nord, au micro d'Henri Vincent.
Nous avons décidé d'automatiser deux phares qui sont des feux à pétrole, le phare des Hauts-de-Bréa et le phare des Triagos. Selon des feux à pétrole, la première opération consiste donc à électrifier les phares, et évidemment en secours avec des groupes électrogènes qui démarrent automatiquement pour assurer la charge des batteries. Parce qu'évidemment, il est impératif que, après automatisation, on obtienne une fiabilité au moins équivalente à celle que l'on avait avec la présence de gardiens en mer.
Roche-Douves, deux arrivées.
Oui, bonsoir, bien reçu. En deux, Force 2, mer belle. Pression 760, si elles ont continué le jeu, temps sec et promotion, voilà, on sera demain.
Ok, bien reçu, à demain.
Oui, les phares ne tournent plus rond. Enfin, ils continuent de tourner quand même, Jean Guichard, mais sans gardien de phare. Je crois que le dernier, c'était il y a à peu près un an, ou en tout cas quelques mois. C'était le gardien de phare de Quiréon qui est parti.
Oui, symboliquement, on en a fait un petit événement, puisque c'était le dernier gardien de phare en mer, puisqu'il existe toujours des phares sur Cordouan actuellement.
Oui. Des gardiens de phare à Cordouan.
Des gardiens de phare à Cordouan. Et d'autres gardiens à terre, si vous voulez, mais les phares emblématiques de type Quiréon ne sont aujourd'hui plus gardés. C'est évidemment une page qui se tourne, mais les Anglo-Saxons, par exemple, les Anglais, les Irlandais, avaient fait ça bien avant nous, donc on était plutôt en retard.
Qu'ils sont automatisés, mais que deviennent leur vie quotidienne, et notamment pour ce qui concerne les très beaux phares comme Quiréon, avec sa marqueterie, qu'est-ce qui devient un phare sans gardien ?
Ben, y a un petit problème qui est posé en termes d'entretien, évidemment, mais il faut pas oublier que c'est pas parce que le phare n'est pas gardé au quotidien qu'on s'y intéresse plus et qu'il n'est pas visité régulièrement par les phares et balises. Et en fait, si vous voulez, les anciens grands gardiens, dans pas mal de cas, sont devenus les agents d'entretien qui reviennent sur les phares qu'ils connaissent bien, mais au lieu d'y rester 15 jours, ils sont déposés en bateau ou en hélicoptère, ils font leur mission d'entretien et ils quittent le phare après. Mais effectivement, il y a un petit problème qu'il faudra régler dans le temps sur la dimension patrimoniale du phare lui-même.
Alors les gardiens de phare ont disparu, mais pas les phares. Est-ce qu'ils servent encore à quelque chose? Est-ce qu'au fond, avec la navigation électronique aujourd'hui, les phares ne sont pas condamnés à disparaître, Jean Guichard?
Non, je pense pas, parce que si vous voulez, dans la tradition de la navigation maritime, il y a toujours eu de multiples moyens de naviguer. Les marins aimant bien croiser les informations pour vérifier leur position en termes de sécurité maritime, c'est le minimum. Et donc, si vous voulez, il y a une évolution des choses. Je pense qu'il y a certains métiers qui, effectivement, ont tendance à disparaître, puisqu'il y a des technologies nouvelles, comme le GPS, qui, effectivement, rend de grands services.
Il peut tomber en panne, remarquez.
Effectivement, il peut tout à fait tomber en panne, et dans ces cas-là, on est quand même content d'avoir le phare. Mmh. Je dirais, si vous voulez, que les grands établissements, comme le Créache, qui étaient des phares d'atterrissage des grandes traversées atlantiques, sont moins utiles parce qu'on n'a pas besoin à 30 km des côtes d'un phare. Mais par contre, on aura toujours besoin de phares plus près de la côte, si vous voulez, pour savoir où on est quand on est dans les cailloux. C'est quand même plus pratique de ne pas faire confiance seulement au GPS. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils disparaissent.
Et vous continuerez longtemps encore à les photographier, Jean Guichard, comme vous le faites dans ce très beau livre, magnifiquement illustré par vos photos, et dont le texte est de Vincent Guiguenot, Phare, donc un livre publié aux éditions de la sélection des Reader's Digest. Vous avez pu entendre un extrait de L'Équipier de Philippe Lioret avec Philippe Torreton et Sandrine Bonner, un film disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver, vous le savez, toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était De Bilan d'Histoire, la technique Lydwine Caron et Ludovic Asselot, documentation Claire Tesser, Clamy Pouch et Alagué et Mathieu Ménossi, une réalisation de Philippe Rouy.